Et ce soir, moi, j'aimerais vous parler de la première noble vérité qu'a énoncée le Bouddha. Et c'est ce qu'on appelle la vérité de la souffrance, ou qui peut être déclinée en plusieurs mots: insatisfaction, manque, douleur. C'est un terme, bien sûr, traduit du pali, qui veut dire, qui vient de dukkha. Donc, comme tous les mots, ils ont leur limite. Et dukkha veut dire quelque chose qui tourne pas bien dans son axe, qui grippe. Lorsqu'on s'assoit à méditer, en particulier en retraite, mais aussi à la maison, bien sûr, souvent les premières minutes sont assez posées, assez calmes. La concentration est plus ou moins bonne. Et on fait l'expérience agréable. Et plus l'assise dure, le temps devient long pour le corps. Peut-être y a-t-il des choses qui émergent en soi-même. Et plus l'expérience tourne et devient difficile, désagréable. Il n'y a pas de règles, bien sûr. Des fois, l'assise est agréable d'un bout à l'autre, des fois elle est désagréable d'un bout à l'autre, et à la maison lorsqu'on rentre, ou le matin tôt, quand on se met sur le coussin, on rencontre tout de suite parfois ces expériences difficiles, que ce soit au niveau du corps, à travers des tensions, des douleurs. Que ce soit au niveau du cœur, s'il y a des émotions, ouais, tout un tas d'états d'âme qui peuvent être présents en nous, la tristesse, la colère, du ras-le-bol, tout ce qu'on peut mettre un peu comme état désagréable. Puis bien sûr également au niveau de la tête, lorsque dans le mental, c'est empli de doutes, de jugements ou d'agitation, de choses qui tournent en boucle. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je viens méditer, je le fais avec une bonne intention pour trouver le calme et la paix. Et ce que je rencontre, en fait, c'est la douleur, c'est la difficulté. En fait, qu'est-ce qui me prend, en fait? Pourquoi est-ce que je médite, fondamentalement? Et c'est important de voir que ce n'est pas la méditation qui crée cela, mais qu'on emporte avec nous-mêmes, en fait, tout ce qu'on génère au quotidien. Pas si vous avez déjà essayé de méditer après une journée où vous êtes retrouvé à être très irrité, à médire, à casser du sucre sur quelqu'un, à condamner, à juger, à agir de manière pas super, ou avoir dit des paroles un peu trop dures. En tout cas, moi, dans ma propre expérience, c'est que ces jours-là, quand je viens m'asseoir sur le coussin, ben, c'est pas vraiment la paix, le calme et la sérénité qui m'habitent. Donc, on emporte avec nous, sur le coussin, toute notre vie. Et en fait, c'est ça qui se dévoile sur le coussin. Et c'est important de voir qu'on est des êtres sensibles, Et que lorsqu'on se sent attaqué, lorsque nos sens sont brusqués, ou lorsque l'instant n'apporte pas ce que je veux exactement, ben, ça génère de la peur, ça peut générer du rejet, de la frustration et tous les cortèges d'expériences désagréables. Alors que quand on se sent en sécurité, nous apprécier que les sens sont flattés et que j'obtiens plus ou moins ce que je veux dans l'instant, ça se passe plus ou moins comme j'ai envie que ça se passe, ben je me sens bien. Il y a des sensations plus ou moins plutôt agréables qui sont là. Mais comme elles ne durent jamais, et c'est le principe de tout ce qui se passe dans l'univers, tout est changeant, et que ces sensations agréables ne durent pas, ben on demeure insatisfait. Et d'une certaine manière, sur le qui-vive, on se dit, mais est-ce que je peux faire en sorte que ça dure? Quand est-ce que ça va changer? Et finalement, ça change toujours. Donc on aspire tous, chacun d'entre nous, à être heureux, à ne pas souffrir. Mais on le voit, notre cœur, malgré cette aspiration, notre cœur, il est sans cesse en train d'essayer de s'ouvrir, de se refermer. Il s'ouvre, il se referme, le cœur et l'esprit. On le voit bien dans les relations qu'on peut entretenir avec certains proches, des amis, ou dans une relation amoureuse, où au début, en fait, le cœur, l'esprit s'ouvre, et puis flac, ça se referme, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous a heurté, qui nous a fait peur, on s'est senti attaqué. Et on vit constamment ce mouvement du cœur qui essaie de s'ouvrir et qui se referme comme une huître. Hein, c'est Montaigne qui dit: ces choses tendres qu'est la vie et aisées à troubler. Et toute la voie du Bouddha, toute l'approche du Bouddha, est de prendre un contre-pied avec la manière dont on fait tous, c'est-à-dire d'essayer de se construire du bien-être, du confort, sans jamais aller essayer de comprendre ce qui cause notre souffrance. Et le Bouddha nous invite à aller voir, regarder. Il y a bien sûr la joie, l'agréable et tout son cortège de belles choses. Mais il y a aussi ça, il y a aussi cette part, il y a cette part de lumière, il y a cette part d'ombre aussi. Et si vous voulez trouver la paix et le bonheur, vous ne pouvez pas choisir qu'un côté. À un moment donné, il va falloir englober le tout et comprendre pourquoi et comment on entretient dukkha. Donc dans le bouddhisme et dans beaucoup d'approches mystiques, que ce soit des approches chrétiennes, dans le soufisme, ces approches considèrent en fait que en nous tout est déjà là. Hein, notre nature fondamentalement éveillée, bonne, sage, elle est là en nous-mêmes. On n'a pas à l'atteindre, à la chercher quelque part. Elle est au cœur, comme diraient certaines, au cœur de notre enfant intérieur. Mais pour aller toucher ce qui est au centre de nous-mêmes, ça demande de descendre dans les couches, derrière les armures, hein, tout le système de défense. et de faire l'expérience de notre condition humaine. Hein, cette condition humaine où finalement on est si vulnérable, sensible, mortel. Et puis si limité, que ce soit physiquement et psychiquement. Hein. Si conditionné, si limité dans ce corps. Donc cette rencontre, elle implique à un moment donné d'aller toucher à ce qu'on appelle la dualité, hein, la dualité qui est ici dans le monde incarné. Il n'y a pas de froid sans chaud, d'ombre sans lumière, de douceur sans dureté, de naissance sans mort. Et sur les aspects plus liés au moi, il n'y a pas de plaisir sans douleur, de reconnaissance sans critique, de gain sans perte, de réussite sans échec. L'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Et on veut toujours l'une partie et l'on ne veut pas l'autre. Et les choses changent, les choses pendulent d'un pôle à l'autre. Ce sont les lois de l'univers. Et qu'on le veuille ou non. Donc en refusant cette polarité et que les choses sont transitoires, qu'elles ont un rythme et qu'elles balancent, qu'on le veuille ou non, d'un côté et de l'autre, il y a un moment la joie, il y a un moment la peine, il y a un moment l'amitié, il y a un moment l'amitié, il y a un moment le conflit. Eh ben, on essaie de se soustraire aux lois. Et du coup, on nourrit, plutôt que de pouvoir s'ouvrir à cela et l'accepter totalement, on nourrit un conflit et on nourrit la souffrance. Le Bouddha, par rapport à la première noble vérité, ce qui est écrit dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha en a parlé comme ça, donc ça. Ça remonte à hein, plus de 2000 ans. Il dit ceci: quelle est la noble vérité de la souffrance? La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, être séparé de ce qu'on aime est souffrance, et ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. En résumé, les cinq catégories d'attachement sont source de souffrance. Il y a la noble vérité de la souffrance, telle fut la vision. La révélation, sagesse, connaissance et lumière qui s'éleva en moi au sujet des choses jusqu'alors inexprimées. Cette noble vérité doit être pénétrée par une compréhension complète de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui s'éleva en moi au sujet des choses jusqu'alors non exprimées. Cette vérité a été pénétrée par une compréhension complète de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui apparut en moi au sujet des choses jusqu'alors inexprimées. Donc reconnaître qu'il y a dukkha, je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce qu'il y a de plus. En tout cas, quand on entend ça pour la première fois, on se dit « Ok, bon, je vais plutôt aller voir ailleurs. » Donc, ça implique un certain deuil, en tout cas dans ma propre expérience. Hein, celui au fait de mourir un peu, au fait de croire qu'on va pouvoir s'en tirer, juste en rajoutant des couches, en fait, par-dessus. des couches de d'armure ou de pas trop sentir ou de tout un truc agréable comme ça, on dit oh, ça va le faire. Voilà, ces couches de sécurité, de bien-être. C'est pas qu'elles sont mauvaises du tout, hein, il s'agit pas de négliger ça. Mais il s'agit juste de voir qu'on rajoute des couches sur quelque chose qui, dans le noyau, continue à générer, à la source, continue à générer de l'insatisfaction, de la peur. Et tout ça. Donc on peut enrober le tout, mais au fond, c'est toujours là. C'est Chögyam Trungpa, un maître tibétain du XXe siècle, qui a dit cela. Il est très décevant de réaliser que l'on doit travailler sur sa propre souffrance et sur soi-même, plutôt que de dépendre d'un sauveur ou d'un pouvoir de technique yogique. Nous devons nous permettre d'être déçus. Ce qui signifie l'abandon du moi et de ma réalisation. Le Bouddha a parlé dans la quatrième noble vérité de tout un chemin pour se libérer de dukkha. Mais ce soir, je vais vraiment plutôt me focaliser sur l'instant présent et sur la pratique. Vraiment de la méditation. Et j'en ai parlé au groupe ce matin. En fait, tout ce qui existe vraiment dans nos vies, c'est l'instant présent. Hein, que l'on ait des pensées en lien au passé, que l'on pense au passé ou que l'on pense au futur, on le fait toujours maintenant. Toujours maintenant. Hein, que l'on soit dans nos pensées de projection, de vacances, de commentaires, d'analyses, tout ça se passe toujours maintenant. Donc, comme seul l'instant présent existe vraiment, travailler sur le lien qui nous unit à l'instant présent est la clé. Hein, si on parvient à créer un lien de sagesse, de bonté, de confiance, avec l'instant, on l'emporte partout avec nous. Donc suis-je en conflit juste maintenant avec quelque chose que je dis, quelque chose en lien à la retraite, quelque chose en lien à soi-même? Comment est-ce que c'est juste maintenant? Est-ce qu'il y a conflit juste maintenant? Peut-être au niveau du corps, du cœur, ou donc quelque chose au niveau mental? Et de voir en fait que ce conflit génère précisément la souffrance, ce que j'essaye, que chacun d'entre nous essayons de ne plus avoir. Et ce conflit va générer encore davantage d'insatisfaction, d'inquiétude, de tension. Ou alors est-ce que je peux juste voir avec sagesse juste maintenant? Et compassion ce qui se passe, et me relier différemment. À voir, bon. Il y a le début, la durée, la fin de la retraite, ça va aller. Il y a le début, la durée, la fin de l'assise, ça va aller. J'ai pas besoin d'être d'accord avec ce qu'on me raconte, c'est pas une vérité absolue. Dès lundi, je retrouve un repas du soir. Donc tout ça, travailler sur ce conflit qui peut être, voilà, typiquement il y a une douleur, ben, de se dire c'est bon, mon genou ne va pas exploser. Du moment où le gong sonnera, que je pourrai me remettre debout, à part si j'ai un problème au genou et qu'il faut le soigner, cette douleur va disparaître. Donc, il s'agit d'amener un lien de compréhension, de sagesse avec l'instant. Et puis tout ça, ça amène au contentement, à la confiance, à une forme de détente avec ce qui est, même si ce n'est pas parfait. Et c'est Eckhart Tolle qui dit, en surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais regardez de plus près, n'y a-t-il pas qu'un seul moment? La vie n'est-elle pas ce moment, toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir et s'en faire un ami? Et tout le défi, la difficulté de la méditation, c'est que on ne s'échappe pas, on reste là, on va nulle part, on fait rien de spécial. On peut être personne en particulier, à part si on essaie de se construire le moi d'un bon méditant vaillant. Mais fondamentalement, il n'y a personne pour nous regarder et nous valoriser, nous faire des louanges. On est juste tout seul avec nous-mêmes. Et on rencontre cet instant. Est-ce qu'on est des bons compagnons pour nous-mêmes? Ou est-ce qu'on est nos pires ennemis, notre pire ennemi. Et le mouvement naturel, c'est que on va chercher, que ça soit en tout cas dans la vie, on va sans cesse chercher à éviter cette expérience désagréable, ce qu'on ne peut pas faire. Dans la méditation, elle est là, et il y a tout qui se grippe parce qu'on se dit, wow. Au quotidien, je m'échappe facile, je détourne facilement l'attention, je pose l'attention sur autre chose. Il y a plein de palliatifs pour ne pas vraiment sentir comme on sait. Mais en cherchant toujours à mettre l'attention sur l'agréable et à fuir le désagréable ou le rejetant, fait qu'on n'est pas totalement présent à ce qui est. On n'est pas totalement présent. La conscience, elle n'est pas totalement ouverte à l'entier de l'expérience dans l'instant. Et on passe du coup à côté de la porte de sortie, la porte vers la libération. Parce qu'on prend qu'une partie de notre esprit discrimine et prend que ce qu'il a envie ou ce qu'il croit être juste. Donc on vit sans cesse projeté dans l'instant tel que je le voudrais. Donc il y a une forme d'avidité, ce qu'on retrouve dans la deuxième vérité, la soif, une avidité pour autre chose. Comme c'est maintenant. Et généralement, quand c'est agréable, on est bien d'accord que ça soit là, mais on a une avidité pour se débarrasser de ce qui est désagréable, parce qu'on voit ça comme une erreur. Le moi voit ça comme un danger, une erreur, quelque chose à solutionner. Ou alors voilà, on se détourne ou on rejette. Le douloureux, et ça c'est l'aversion. Et au milieu, il y a tous ces ressentis neutres, toutes ces sensations neutres, toutes ces choses qu'on ne voit pas. Est-ce que vous avez vu? Parce que j'ai fait attention à cette lampe depuis que vous êtes arrivé. Probablement pas. Et pourtant, elle fonctionne. Et on pourrait être extrêmement, on pourrait nourrir une forme de satisfaction et de gratitude sur le fait qu'elle fonctionne. Il y a tout un tas de choses neutres, en fait, dans le quotidien qu'on ne voit pas, parce que l'esprit est attiré vers l'agréable ou le désagréable. Et il y a tout un tas de choses qu'on prend pour argent comptant. Est-ce que vous avez fait attention aujourd'hui à votre genou droit qui ne vous a pas fait mal, qui vous a permis de marcher? Non, c'était neutre. Mais je peux dire que le jour où il vous fait mal, c'est là qu'on se rend compte à quel point il est précieux, ce genou. Et ça, c'est l'aveuglement. Hein? Il y a l'avidité, l'aversion, l'aveuglement. Tout un tas de choses neutres, a priori neutres, qu'on ne considère pas tant qu'elles fonctionnent. C'est d'une certaine manière de voir aussi le verre à moitié plein, donc à moitié vide. Donc voilà, il y a ces deux pôles, ces deux tensions, où l'esprit est tout le temps à vouloir ci puis rejeter ça. Au centre, on ne voit pas trop, on prend ça pour normal. Et on est toujours sous tension d'un côté. Et c'est Pema Chodron, une non-bouddhiste tibétaine, américaine, qui a écrit des livres très éclairants, qui dit que la souffrance commence à se dissoudre quand nous sommes capables de remettre en question la croyance ou l'espoir qu'il existe un endroit quelconque où se cacher. Alors de nouveau, pour la fois que j'ai lu ça, je fais, c'est rude. Et c'est pour ça que la bonté est importante, la patience, la compassion, hein, pour pas se mettre trop de choses sur les épaules. Et savoir y aller tranquille sur ce chemin, savoir faire des pauses, savoir se faire du bien. Mais juste pas être totalement aveugle de ce qu'on fait, juste savoir ce qu'on fait. Aucun problème à s'organiser des magnifiques vacances, c'est important, ça fait du bien. Et juste voir ce qu'on fait. Ou quand on s'achète un nouveau truc, ah ben là je me fais juste un peu de bien. C'est fou comme ça me fait du bien de m'acheter un truc. Mais si je crois que je vais être sauvé, ben on est mal barre, quoi. Puis c'est ce qu'on voit avec la planète aujourd'hui. On croit tous qu'on va être sauvé en s'achetant plein de trucs. Ben, la planète qui se détruit, qu'on détruit. Donc comment est-ce qu'on peut accueillir ces parts, ces expériences désagréables? Parce que dukkha, fondamentalement, dans le vécu, dans l'instant, c'est une expérience, une sensation désagréable. La colère, on la vit dans le corps, tout se vit dans le corps, même si certains d'entre nous avons appris à ne plus sentir. Et ça, tout ça, c'est l'art de la méditation. Il n'y a pas de recette miracle. C'est un art que chacun peut développer soi-même. Dans l'enseignement, on donne des orientations. Mais c'est tout l'art déjà de savoir reconnaître ce qui se passe dans l'instant. Tiens, là, il y a une sensation désagréable. Est-ce que je peux investiguer? Bon, comment c'est? Ok. C'est plus ou moins grand, plus ou moins chaud, ça vibre. Il peut y avoir un intérêt de reconnaître comment ce qui est juste dans l'instant. Ou tiens là, juste maintenant, il y a colère. Ou il y a joie, ou il y a tristesse, il y a un confort, il y a stress, il y a une pensée. Tout le travail de la pleine conscience qui reconnaît l'objet. Et les deux autres aspects touchent au fait d'accepter. D'une part, de dire, est-ce que je peux permettre que cette expérience difficile soit là juste maintenant? Souvent, quand on vérifie, en fait, on n'a juste même pas envie de lui permettre d'être là. Du non, 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 je veux pas que tu. Là, la somnolence qui me fait tomber du coussin, c'est bon, j'ai pas envie. C'est très désagréable. ou tout d'un coup ce sentiment de je suis nul, de ce qu'on appelle la soif de non-existence. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, j'aimerais aller me cacher, partir. Très désagréable, ce qu'on peut voir. Est-ce que je peux déjà permettre que ça soit là? Ou juste, non, 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 faut que je prétende être bon, fort, tout va bien. Est-ce que je peux permettre que ça soit là? Et ensuite, est-ce que je peux demeurer avec ça? Demeurer avec. C'est tout un art de demeurer avec, de respirer, de savoir comment amener la conscience, l'attention sur ces énergies difficiles. Souvent, ce n'est pas conseillé, en particulier si ça touche à des choses traumatiques, des énergies traumatiques, de plonger dedans. Ce qu'on fait que de se refiger dedans ou de relancer tout un processus de crispation, de tension. Donc savoir comment je peux rester en périphérie des fois de ces expériences difficiles, de ces sensations, d'écouter, de regarder, de tolérer qu'elles soient là, pour finalement s'ouvrir à ça, se dire, ah, comment on sait? Comment c'est? Je vous ai donné un petit aperçu en court-circuit un peu avant avec la douleur, mais comment elle est cette expérience juste là? Et en pratiquant ça, c'est ce qu'on appelle l'attention pure, on sort petit à petit de toutes les interprétations, croyances, histoires que l'on colle, que l'on couple à ces expériences désagréables. Il y a une douleur dans le genou qui dure, qui est vraiment difficile, dans une assise par exemple. Et tac, oh, je vais me blesser le genou. Je vais me blesser le genou, ah, je peux pas continuer à méditer, je vais me blesser le genou, je vais devoir aller chez le docteur. Ah, mais si je prends des béquilles, je ne vais pas pouvoir faire ci, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai fait forcer? Toutes les histoires qu'on rajoute par-dessus. Alors, bien sûr, des fois, il y a du bon sens aussi à avoir, mais. Et quand on va juste dans l'énergie brute de l'expérience, ben, elle perd de son. Souvent l'expérience perd de son emprise. Hein. L'identification se résorbe et la souffrance aussi. Et ça permet à la conscience d'être pleine et plus réceptive. Et plutôt que d'avoir une expérience désagréable qui m'envahit complètement et qui occupe totalement mon champ de conscience, et je suis complètement dedans, à force de pratiquer, il y a quelque chose qui permet de faire ça comme ça, de regarder. L'expérience désagréable est toujours là, mais il y a un espace qui se crée entre les deux choses, entre ce qui observe et l'objet. Il peut y avoir du coup une détente avec. Ça ne veut pas dire être totalement détendu, mais une détente avec l'objet désagréable. Et à la longue, à force de faire ça, puis de regarder, je m'aperçois petit à petit que je ne suis pas uniquement l'expérience qui est là. Hein, qu'il y ait de la joie ou de la tristesse, je ne suis pas juste la joie, la tristesse, l'inquiétude, la fierté. Il y a quelque chose d'autre, d'au-delà de tout ça, qui est toujours présent et qui est totalement inconditionné. on se rend compte qu'on n'est pas que l'expérience, il y a autre chose. Et du coup, dans la méditation, après, peu importe que l'on rencontre de l'agréable ou du désagréable, je ne suis pas l'expérience, c'est juste une expérience. Et la conscience peut voir, peut accueillir, tout en continuant à être humain et à être touché par ce qui se passe. Mais il n'y a plus ces schémas de réactivité qui se mettent en place. Donc la libération est possible. Ah, parole de Ajahn Suchito, je l'ai oublié, qui est un moine dans la tradition Theravada, en lien aussi au courant que suit Mudita. La paix vient d'une attitude intérieure très fine. C'est une habileté à recevoir, à accueillir, à supporter, à ne pas réagir, à ne pas vouloir avec avidité et à ne pas rejeter avec aversion, à ne rien demander. Donc, on parle souvent de la libération comme quelque chose à atteindre, mais fondamentalement, la libération, c'est quelque chose qu'on peut atteindre à chaque instant, juste maintenant. Sauf qu'on croit souvent que la libération, c'est quelque chose d'agréable et de transcendantal. Mais la libération, juste maintenant, c'est cette libération qui s'ouvre à l'ombre comme à la lumière dans l'instant, à l'agréable et au désagréable, avec un cœur équanime, sans exigence, sans s'attacher à ses préférences. Il y en a, mais on peut les voir. Et le cœur s'ouvre, ouvert et confiant, face à l'incertitude que ça va changer, que l'instant n'est pas parfait, mais le cœur équanime y voit que c'est parfaitement imparfait. Et c'est ce qu'on appelle le chemin immédiat. Et c'est la simple question, est-ce que juste maintenant, je suis libéré? Et de quoi est-ce que je suis libéré? Et l'éveil est possible à chaque instant. Et après, ça change. Libéré, plus libéré. Donc, ça demande d'aller à la rencontre, encore et encore. Et d'aller à la rencontre de ses parts d'ombre, de dukkha. C'est Khalil Gibran qui dit « Nul ne peut atteindre l'aube qu'en passant par le chemin de la nuit. » Donc c'est un chemin de courage, un chemin où on ne voit pas vraiment toujours où on va, parce que quand il fait nuit, on ne voit pas grand-chose. Mais notre boussole, elle est intérieure. On a une direction, on avance. C'est très insécurisant, il n'y a plus de cadre de référence. Dans la nuit, on voit, il n'y a plus un bord de route là, une barrière ici. On avance des fois en tâtonnant, sans plus de référence, c'est très instable. On a moins d'équilibre dans la nuit. Mais en même temps, on est pleinement vivant, moins endormi que qu'en plein jour. Sur une plage, sur un transat, même si c'est vraiment agréable. Et je vais terminer par une phrase de Durkheim qui était un. Oh, j'ai oublié maintenant. Mais un occidental qui avait du début du siècle, je crois, du 20e, qui avait suivi le chemin zen. Il faudra vérifier. Que l'homme sache souffrir. Et non qu'il ne souffre plus, est la preuve qu'il est parvenu à son centre. Vu sous l'angle de l'être essentiel, vaincre la souffrance signifie être capable de souffrir sa peine.